Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h et c'est avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Imaginez-vous un 29 juillet, imaginez-vous la Sainte-Marthe, vous êtes en 1773, la terre va trembler.
Le 29 juillet, la terre tremble. Elle tremble où cette terre ?
Eh bien, le jour de la Sainte-Marthe, c'est un événement qui a été majeur dans l'histoire d'Amérique latine. Et le soleil d'aujourd'hui va se coucher sur les ruines véritables d'une ville qu'on appelle aujourd'hui Antigua. Antigua, ça veut dire l'ancienne, ça veut dire la vieille,
c'est
ça veut
Mexique.
Dire celle qui a vécu. Non, c'est au Guatemala. Ah. Antigua, Guatemala, est en fait une des capitales du Guatemala. Alors, je ne sais pas si vous situez bien ce pays en Amérique centrale, mais il est vrai que on sait qu'en 1524, il a été envahi par Pedro de Alvarado, qui était le capitaine de Cortés et qui est descendu depuis le Mexique et qui a réussi très rapidement à prendre l'ensemble de ce petit pays. Guatemala, ça se traduit par le pays ou l'endroit de la forêt. Et c'est vrai qu'il devait y avoir énormément de forêts qui ressemblent un peu à nos forêts du Jura. C'est-à-dire que le Guatemala est un pays extrêmement tourmenté. Quand je dis tourmenté, c'est que d'abord, il paraît petit comme proportion. C'est un pays qui est serré entre le Pacifique et l'Atlantique et qui a une forme un peu triangulaire. On sent déjà ce resserrement qui nous amènera du côté de Panama vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique qui annonce déjà l'Amérique du Sud. Et l'endroit où nous sommes est en fait exactement situé sur cette ligne que je viens de marquer du Pacifique à l'Atlantique. Et c'est un pays qui a subi sur le plan géologique une sorte de cascade de formation qui est en fait cette fameuse Sierra Madre qui descend déjà depuis les Rocheuses aux États-Unis. Et là, la Sierra Madre fait une sorte de petit virage en arrondi, vous voyez, comme une sorte de croissant, comme ça. Mm-hmm. Vous descendez la main et puis vous tournez vers la droite, comme ça. Et en même temps, il y a une énorme faille qui est due à des fleuves, à des rivières qui coupent tout cela. Une faille qui vraiment vous amène très, très rapidement du côté Pacifique, qui chute de façon absolument vertigineuse. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez glisser petit à petit jusqu'à Livingstone, jusqu'à cette mer des Caraïbes, jusqu'à la fin de la barrière de corail. Alors, je vous ai donné cette description simplement parce que tout le monde sait que la plus grande faille qui existe, on connaît celle de San Francisco, eh bien la deuxième grande faille qui se trouve en dessous, c'est celle du Guatemala. Et quand je parle de cette espèce de brèche, c'est parce qu'elle est encore ponctuée, en dehors de l'idée de la Sierra Madre, qui est une formation normale, un peu comme on aurait formé le Jura ou les Alpes, eh bien là, au contraire, on a en plus une ponctuation absolument incroyable dans ce pays de volcans. Il y en a une trentaine à peu près, je crois 28, enfin je n'ai pas le chiffre exact en tête, et ces volcans se sont formés comme cela, comme de véritables cônes. Je crois que c'est un des pays, on pense au Fujiyama, on pense à des pays typiques. Le Japon nous donne cette idée de la forme parfaite d'un volcan. Eh bien le Guatemala a formé pratiquement tous ces volcans sur ce stéréotype comme ça absolu. Et ils sont presque tous conservés comme cela. Alors les plus connus se trouvent autour de la ville qu'on va visiter aujourd'hui, autour de ce soleil d'aujourd'hui, qui en somme est entouré par deux formations extraordinaires. Un s'appelle l'eau, l'autre s'appelle le volcan Agua, donc l'eau, et l'autre est le feu, le fuego. Et ils ont tous les deux cette forme pyramidale parfaite.
On a appelé ce volcan Agua ?
Agua, ce sont les indigènes qui l'ont formulé comme cela. Et d'ailleurs, c'était presque un peu prédestiné. Ben là, vous me faites carrément penser à l'histoire. Parce que quand je dis Antigua, Guatemala, c'est une ville qui s'est fondée après la conquête. Je m'explique. Il y a eu plusieurs épisodes assez curieux. Ben, c'est peut-être l'occasion de voir un peu comment on envahit un pays et pourquoi on s'établit à tel et tel endroit quand on est un conquérant, un conquistador comme Pedro de Alvarado. Eh bien, lui arrive et il trouve des tribus en place, les Cachiquels, les Quichés, enfin des noms assez compliqués. Et il fait un peu comme Cortés, il arrive à avoir des alliés, il livre bataille, et curieusement, toutes ces grandes batailles et ces grands moments vont être gagnés au point de vue issu des combats le 25 juillet. Alors le 25 juillet, c'est une des plus grandes fêtes d'Espagne, c'est celle qui correspond à Santiago, et toutes les batailles d'Amérique se sont livrées au nom de Saint-Jacques, et la fondation de la première capitale, c'est Isimché. Simche, c'est un nom bel et bien indien. C'est une sorte de fortification incroyable, justement, dans ces nœuds, comme ça, un peu rocailleux et montagneux. Je rappelle qu'il y a des pins partout. La première fois où on se rend dans ce site,
C'est les volcans et la forêt.
Oui, mais là, c'est surtout ce côté faille que j'évoquais tout à l'heure, et puis des brèches, des sortes de ravines énormes, et puis une sorte de construction qui était déjà conçue comme quelque chose qui ressemble un peu à un château fort à la façon précolombienne. Et les Indiens se défendaient les uns contre les autres. Il y a eu beaucoup de guerres dans les dernières décennies avant l'arrivée de l'Espagnol, et Isimché a été prise par Pedro de Alvarado, qui s'est rendu compte que c'était le site majeur, le site le plus fort de la région. Donc il s'est dit, je vais créer ma capitale ici. Alors ça se passe en 1524, et quelques mois plus tard, il décide finalement de chercher un lieu qui soit vraiment colonial. Et ce lieu colonial s'appelle aujourd'hui Ciudad Vieja. Ciudad Vieja, ça se trouve...
La vieille cité.
Oui, ça se trouve déjà au pied de ce volcan Agua. J'ai retenu votre question, Frédéric. C'était de savoir pourquoi ce volcan s'appelle Agua et quelle est la prémonition qui va tourner autour de ce volcan Agua. Eh bien, sachez que cette première cité...
Il était rempli d'eau
Il était rempli d'eau dans la mesure où le cratère était là exactement comme une cuvette, et qu'il va effectivement se remplir d'eau de manière un peu dramatique, puisque après cette deuxième fondation, on va vivre le début de la colonie en fondant cette capitainerie générale de la Nouvelle-Espagne. C'est une capitainerie générale qui était dépendante de la Nouvelle-Espagne, pour être exact, donc en fait qui était dépendante du Mexique. Mais une capitainerie générale, c'est déjà quelque chose de séparé, qui n'a rien à voir avec la vice-royauté. Et Pedro de Alvarado, qui est quelqu'un de puissant, de fort, d'un peu turbulent, va à un moment donné, lorsqu'il a pratiquement terminé sa conquête, il va décider de repartir en Espagne pour chercher femme. Et dans ces cas-là, lorsqu'on était devenu un grand conquérant, il avait acquis des biens, il avait tout à coup ce territoire entier à sa disposition. Il était un peu l'infant, le dauphin de ce que Cortés avait réussi à faire. Il avait été son capitaine principal. Et il va partir en Espagne. Je n'ai pas envie de vous décrire la scène, mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ces bateaux qui sont revenus avec cette Doña Inés qui avait pris avec elle tout son trousseau absolument incroyable. Et là, c'est vraiment les scènes qu'on voit dans les meilleurs films historiques. Hein, la grande robe, enfin les apparats, et puis la traversée carrément
beaucoup
de l'Atlantique,
comme les Espagnols, hein.
Partir comme ça depuis le côté atlantique et se rendre dans cette nouvelle capitale, créer un palais de toutes pièces, tailler la pierre, faire travailler l'Indien. Et Ciudad Vieja a certainement été déjà une très 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 belle ville, mais un jour de 1543, il y aura un premier drame. Vous voyez que là, dans cette étrange cuvette où on va trouver ensuite notre Antigua, elle est tout près, cette ville de Ciudad Vieja, on l'aperçoit pratiquement depuis Antigua, et bien il y aura un premier événement absolument incroyable, et Doña Inés va être celle qui va subir ses derniers jours, ses derniers instants, ses derniers moments, qui va subir la mort à Ciudad Vieja. Je vous raconterai ça. Through the back window of a 59 wagon, I watched my best friend Jamie slipping further away. I kept on waving till I couldn't see her, and through my tears I asked again why we couldn't stay. Mama whispered softly, time will ease your pain. Life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I help you to say goodbye? It's okay to hurt, and it's okay to cry. Come let me hold you, and I will goodbye. I sit on our bed, he packed his suitcase. I held a picture of our wedding day, his hands were
life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I help you say goodbye? It's okay to hurt, and it's okay to cry. Come let me hold you, and I will try. How can I help you to say goodbye?
Avant de connaître le drame qu'a subi Dona Inés en 1541, j'aimerais bien, Maurice, qu'on se replonge en 1524.
Oui, alors ça, c'est la fondation,
la fondation de
la première capitale. Oui. Mm. Alors, Ciudad Vieja, il faut attendre un peu. C'était 1524, les Imché. Ça se trouve presque à une heure aujourd'hui de voiture. C'est un site archéologique avec justement cette puissance de la brise, cette douceur du climat. Le Guatemala, c'est fantastique. C'est le printemps toute l'année. Et quand je pense au Guatemala, je pense vraiment à ce soleil, à cette lumière très curieuse qui passe à travers les pins et puis ce bruissement, cette odeur même de la résine, cette impression qu'on est bien dans sa peau. Et là, c'est seulement en 1527 qu'on va poser la première pierre pour faire cette seconde capitale qui va s'appeler Ciudad Vieja, et on va y vivre très peu de temps. Vous parliez du drame de 1541, j'ai cité 1543 tout à l'heure, il a fallu attendre 2 ans après la destruction pour qu'on refonde une troisième fois la capitale. Alors ce qui est curieux, c'est qu'elle a toujours porté le nom de ce saint, c'est-à-dire Santiago de los Caballeros, Saint-Jacques des Chevaliers, et finalement la première qui a disparu et qui est devenue ruine précolombienne, qui n'a laissé pratiquement aucune trace espagnole, va être remplacée par celle qui aura quelque chose de très très occidental. Alors imaginez la scène, vous êtes au pied de ce volcan, alors il faut refaire cette forme incroyable de l'agua qui est vraiment, quand on passe sur la route et qu'on s'arrête à Ciudad Vieja aujourd'hui, qui est à quelques encablures de la vieille capitale détruite, eh bien on a l'impression d'être véritablement devant un toboggan. Et ce qui s'est produit, en fait, dans cette année 1541, il y a eu énormément de drames. Cette jeune femme qui venait d'Espagne, que j'évoquais tout à l'heure, vient de se marier, et elle vient de s'installer, et son mari est un bougillon de première. C'est quelqu'un qui ne supporte pas, quelqu'un qui bouge beaucoup. Il ne supporte absolument pas l'inutilité guerrière. Donc il pense toujours à faire des expéditions incroyables. Il est, par exemple, parti jusqu'en Colombie pour imaginer qu'il va prendre son morceau du Pérou Pérou, parce qu'il sait que Pizarro est par là-bas dans les années 30, et on lui donne quelques milliers de ducats, il rentre de nouveau au Guatemala, et puis là, il se dit, non, je vais quand même faire quelque chose. Alors, il décide de faire construire des bateaux du côté d'Acapulco pour aller conquérir la Chine. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et lorsqu'il est du côté d'Acapulco et qu'il pense à son expédition en 1541, au mois de juin, il reçoit en fait l'appel, un messager arrive, et on lui dit qu'un de ses amis conquérants a des ennuis dans l'état de Guerrero, un peu plus au nord, donc au Mexique. Hein. Alors il prend carrément une petite armée, il monte sur son cheval et il va tenter de sauver son camarade. Et malheureusement, il glisse tout simplement, c'est-à-dire qu'il a un ennui et son cheval trébuche et il est écrasé par son propre cheval. Et il meurt, on ne sait pas si c'est le 29 ou le 30 juin 1541. Et alors là, il y a un phénomène curieux. Et imaginez que depuis le Mexique, pour que la nouvelle arrive, hein, il a fallu du temps. Et cette jeune femme va être tenue au courant, si ma mémoire est bonne. Là, c'est vrai que je n'ai pas de note du tout par rapport à l'événement, mais ça doit se situer au mois de septembre seulement. Donc, ouais. C'est assez longuet.
2 mois après.
Et curieusement, cette femme qui sait que son mari est mort et qui est vraiment une noble et une très belle hispanique, va essayer de lutter contre tous les gens qui sont en place à Ciudad Vieja et qui envient cette incroyable capitaine Rick. Parce que quand je parle du Guatemala,
elle avait le pouvoir.
Elle a voulu.
Son époux était parti et avait été mort, elle avait quand même le pouvoir.
Elle s'est sentie l'héritière de ce pouvoir. Et il faut comprendre que le territoire partait des Chiapas, c'est-à-dire ce qui correspond maintenant au sud du Mexique, ça allait jusqu'au Nicaragua, ça touchait le Honduras, donc ça fait un beau morceau, c'est presque toute l'Amérique centrale. Et contre vents et marées, elle prend le pouvoir, et elle porte le voile noir du veuvage et elle va survivre 9 jours. C'est-à-dire que ce sera la première femme à prendre le pouvoir en Amérique. Et ce qui est curieux, c'est que pendant ces 9 jours,
survivre dans le pouvoir ou on va l'éliminer au bout
de 9 jours? Non. Ce qui va se produire est beaucoup plus impressionnant, Frédéric. C'est que, en définitive, il pleut sans arrêt.
Ah, très bien, donc ça remplit le...
Et il y a tout à coup
le volcan.
Un torrent absolu de boue qui descend de ce toboggan et qui envahit toute la cité de Ciudad Vieja qui disparaît d'un seul coup. Et la légende dit que cette femme était avec ses dames de compagnie sur le toit de son palais et que c'est là qu'elle va mourir en priant. C'est la fin de Ciudad Vieja, on est en 1541. Et bien c'est en 1543 que juste à côté, on va fonder celle qui s'appelle aujourd'hui Antigua, Guatemala.
is the answer, but will we change it to fuck the me and you change, never ending change, yeah, yeah. Don't try to fight it anymore. Change.
Soudia Dvira est enseveli sous un torrent de boue. Il n'y a aucun survivant, tous les habitants
Il n'y a pratiquement aucun survivant. Hein. C'est justement au mois de mars 1543 qu'on pose la première pierre de cette deuxième fondation de Santiago de los Caballeros.
Qui reconstruit la ville ?
Eh bien, c'est de nouveau les Espagnols qui, en somme, ont repris cette capitainerie. Et finalement, on va retrouver Maroquin, qui est le premier évêque. On va fonder les premiers couvents. Et je dirais que ce qui est impressionnant, c'est justement l'histoire même, les événements qui vont entourer cette ville jusqu'en 1773, qui nous troublent un peu, parce qu'il y aura bien sûr immédiatement une sorte de place d'armes, comme on l'appelle sur place, qui sera vraiment le centre, le cœur même de la ville. Et puis là, on va retrouver bien sûr le palais principal, qui va être reconstitué de nombreuses fois, et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, le palais des capitaines généraux de ce Guatemala, eh bien, c'était les représentants en fait des rois d'Espagne, bien sûr, et ils vont y résider jusqu'en 1773. Et c'est à ce moment-là qu'on va changer de capitale et choisir l'actuelle capitale du pays, c'est-à-dire Guatemala.
C'est-à-dire à cette époque, nouveau drame.
Eh oui, mais beaucoup plus terrible encore que le précédent, parce que la ville a grandi. Il y a maintenant des églises, il y a la première université, il y a des couvents absolument somptueux. Et ce qui est incroyable, c'est que là, vous êtes à peu près à 1500 mètres d'altitude. On dit que ce sont les Indiens qui ont demandé aux Espagnols de se mettre un peu plus au nord de Ciudad Vieja. La vallée s'appelait Almolonga et c'était véritablement une sorte de gélatine. Je l'appelle comme ça, c'est une sorte de champ extrêmement humide, assez curieux, une cuvette là au pied de ce volcan. On est très proche hein, de la précédente, mais c'est encore un terrain moins bon, peut-être moins en danger par rapport au volcan de Agua, pas forcément moins en danger par rapport au volcan Fuego qui lui entre en éruption de temps à autre, mais l'histoire est véritablement ravagée par des secousses telluriques dont on n'a aucune idée. Il y a des monuments qui ont été rebâtis, reconstruits jusqu'à 8 ou 9 fois pendant cette histoire courte en fait, hein, 1543-1773, c'est pas très long. Et je me rappelle par exemple de la Saint-Michel. Non, attention, j'ai bien dit 1543-1773.
Ah oui.
Hein. Non, mais il y a un tremblement de terre par exemple en 1717, donc déjà au 18e, c'était la Saint-Michel qui a été absolument violent et qui a pratiquement déjà demandé la reconstruction de tous les grands bâtiments de la ville. Et quand on visite l'endroit aujourd'hui, eh bien c'est justement ce qui a suivi. C'était à partir de ce 29 juillet, cette Sainte-Marthe de 1773, là je crois qu'on a eu la secousse la plus incroyable que l'on ait eue. Je pense que mon souvenir personnel, c'est 1976, hein, où on a eu le plus gros séisme de ce siècle au Guatemala. Quand vous dépassez 7 et que vous vous approchez de 8 sur l'échelle de Richter, vous avez vraiment l'impression que le monde entier s'arrête. C'est quelque chose effroyable. Pour avoir comme ça 20 ou 30 ou 40 000 morts dans un petit pays où les maisons ne sont pas dangereuses en soi, elles sont souvent petites, elles sont souvent légères, il faut vraiment qu'il y ait un tremblement incroyable. Et là, en 1773, eh bien, la couronne d'Espagne a carrément décidé, après ce tremblement de terre incroyable, qu'il fallait déplacer la capitale. On a enlevé les balcons, on a enlevé les portes, et en fait tout le monde a voulu rester par la suite, parce que le climat, l'endroit est tellement chaleureux, tellement sympathique, qu'on a fini par y rester. Alors on comprend mieux cette obsession des architectes quand on vit dans une ville comme ça. Et c'est curieux parce qu'au cours de l'histoire, avec des gravures, avec des détails qu'on remarque encore dans les ruines, parce qu'elle est en ruine, cette ville. Hein.
Donc elle existe toujours.
Ah, bien sûr, on y vit toujours. C'est une ville, c'est peut-être la plus touristique du Guatemala. Vous avez des rues pavées extraordinaires, vous avez des maisons basses, vous avez ces lanterneaux qui sont sur pratiquement toutes les maisons. Et vous avez des couvents entiers qui sont complètement en morceaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à la fois à Pompéi, si vous voulez, et en même temps dans une ville extrêmement vivante. Alors, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on a cherché à bâtir solide. Et quand je veux dire solide, c'est que de plus en plus au cours des
décennies... Mais on s'est déplacé quand même.
Non, on est toujours resté au même endroit.
Toujours au même endroit, entre les deux volcans à peu près.
Absolument, et ce qui était incroyable, c'est que les murs n'ont pas tardé à devenir de plus en plus épais pour des raisons de solidité. On a même demandé à des architectes spéciaux, il y a par exemple le couvent de la Merced et l'église de la Merced, qui a eu la chance de ne pas tomber en 1773, avait été faite par un architecte italien qui avait vraiment étudié la voûte, qui avait fait des travaux absolument incroyables pour éviter les tremblements de terre. Alors ce qui est curieux aussi, c'est que toutes les tours des églises ont commencé à baisser. C'est un peu comme si ça fondait, vous savez, elles sont trapues comme ça, c'est quelque chose de très volontairement solidifié, un peu pétrifié, mais dans le sens de cette volonté d'éviter toute catastrophe future. Ben, la Merced n'est pas tombée en 1773, mais il y a eu un tout petit tremblement de terre quelques années après, et le couvent s'est effondré d'un seul coup. C'est assez fou de voir à quel point même une ville comme celle-ci, qui a été reconnue déjà, je crois, depuis 1942 par l'UNESCO et qui a été considérée comme étant une des villes à protéger, une des plus belles de toute l'Amérique latine, parce qu'elle est bloquée, elle a ce blocage incroyable. Hein. C'est-à-dire, tout ce que vous regardez est du XVIIIe siècle. On est en plein baroque, il y a de la sculpture partout, il y a cet art, les retables, les choses intérieures ont plus ou moins disparu, puisqu'en fait, toutes ces voûtes se sont plus ou moins écroulées. Mais on a une sensation de beauté et de qualité qu'on n'a nulle part ailleurs, parce qu'ailleurs, on a eu le XVIIIe, on a eu le XIXe, on a eu le XXe siècle. C'est-à-dire que là, tout est resté bloqué, et on en a fait une sorte de musée incroyable. C'est la ville la plus précieuse sur le plan du baroque.
Là, actuellement, les volcans, oui. Ou en tout cas le Fuego rentre toujours, est toujours en éruption. Alors,
le volcan Fuego, je l'ai presque toujours connu en train de fumer. Il m'a souvent réveillé, il fait des bruits assez sourds. En ce moment, c'est plutôt le Pacaya qui secoue un peu tout le pays. Je m'arrête souvent devant le Santiaguito, qui lui est déjà du côté pacifique, du côté de Quetzaltenango, un peu derrière la Catitlan.
Comment est-ce possible de construire une ville avec ces risques pareils?
Eh bien, je dirais que le Guatemala, comme j'évoquais Pompéi tout à l'heure, ben, c'est un pays riche et tout ce qui entoure Antigua, ce sont d'abord des vergers, des champs des champs avec des cultures incroyables, et puis le café. Le café qui demande 1500 mètres d'altitude, qui est couvert comme ça par d'autres arbres, qui est vert, qui est superbe. Regardez les grains, ils sont tout rouges, ils sont prêts à être cueillis.
j'aimerais bien qu'on se retrouve maintenant, alors en 1995, on se retrouve à Ciudad Vieja, qui est une ville en ruine. Ça doit être extraordinaire de vivre à côté de ces ruines.
Ciudad Vieja, il ne reste plus que l'église, mais Antigua, Guatemala, donc celle qui a été détruite en 1773, ça oui, ça je crois que vous voudriez, même si vous ne la connaissez pas, y vivre demain, parce que j'évoquais les galets, j'évoquais les rues. Il y a quelque chose d'extraordinairement romantique dans cette ville. Mmh. Et puis il y a cette qualité de la vie qui fait que cette température à 1500, ça vous colle à la peau, vous êtes bien
on
partout.
Toujours, tous les jours les printemps.
Et par rapport à tout le Guatemala, les gens de Guatemala City ont tous, ou espèrent tous, quand ils ont suffisamment d'argent, avoir une maison, une demeure, un patio, un jardin à Antigua. C'est vraiment, vous y allez le week-end, c'est le lieu de villégiature par excellence. J'entends, c'est un endroit où il y a plein de boutiques, il y a plein de petits bistrots, il y a un petit côté 68 heures.
On y vit de quoi ?
Alors on y vit à la fois de tourisme, c'est vrai, il faut le dire, il y a des écoles de langue, il y a des hôtels qui ont un charme absolument fou, c'est-à-dire tous ces patios fleuris avec chaque fois un découpage sur l'horizon avec ces volcans incroyables. Et surtout le fait d'avoir créé une ambiance dans un décor de théâtre finalement. C'est-à-dire même sur la place principale, vous avez la vieille fontaine avec des étranges sirènes, vous avez cette cathédrale à moitié démolie, vous avez cette façade de la capitainerie qui est là exactement comme elle était en 1760 à sa dernière reconstruction. Vous avez encore les armes des Bourbons, vous avez des musées, et puis vous avez tous ces couvents qu'on a tous envie de redécouvrir, parce que tiens, on découvre un bout de cellule, mais juste à côté toutes les colonnades sont tombées, un peu plus loin vous avez une fontaine absolument immense qui fait 20 ou 30 mètres de côté avec des statues d'anges, avec des saints superbes. Enfin, il y a le côté baroque qui est resté juste là, à fleur de peau de ces ruines, puis un côté un peu écaillé comme ça. Et la ville entière a été repeinte, a été retravaillée.
Voilà, c'est ça
que
j'allais vous demander. Ça avait été conservé, donc tout a été conservé dans l'état.
On y est revenu, ça a été abandonné presque pendant 2 siècles. Et puis autour de ces ruines, on a reconstitué les maisons, on a refait ces patios, et il y a par exemple des demeures tout à fait seigneuriales qu'on peut visiter aujourd'hui, et où on se retrouve vraiment avec à la fois les meubles anciens, le petit jardin aux épices, encore quelques glouglous de fontaines. C'est, vous imaginez un peu le climat de l'Andalousie, un rien de Grenade, de Séville, mais avec un côté strict, un peu lourd, un peu massif. Et puis chaque maison est peinte avec une couleur pastel différente. Il y a du bleu, il y a beaucoup d'orange, il y a des couleurs de terre, des jaunes, des blancs aussi. L'université de San Carlos, par exemple. Voilà l'université qui a été fondée dans les années 1600, qui a été reconstruite de nouveau. Donc ce que vous voyez, c'est de nouveau de 1700 et quelques. Quand vous pénétrez à l'intérieur, il y a cette qualité du stuc avec des décors en relief. Et puis, vous avez cette impression de sentir quelque chose de noble. Enfin, ça a été un lieu de, non seulement d'études, mais on sent que ça a été une des grandes, des plus belles capitales de toute l'Amérique. Je crois que les seules villes qui pouvaient être comparées à Antigua, Guatemala, dans le monde de l'époque, c'était Quito, c'était Lima et c'était Mexico. Ça s'arrêtait là. Antigua, c'était vraiment un rêve absolu. Et par le confort du pays, par la richesse de ce que j'évoquais, c'était l'agriculture des alentours. Imaginez-vous une terre volcanique, c'est fantastique à 1500 mètres. Vous avez tout ce que vous voulez sous la main. Ça va de l'orange, en finissant par le café tout à l'heure qui est arrivé bien plus tard, bien sûr. Mais quand vous passez juste derrière les volcans, vous avez la côte pacifique. Et cette côte pacifique, c'est la canne à sucre à l'infini, des palmiers. Enfin, tout ce que vous pouvez rêver de faire pousser existe au Guatemala. Il y a aussi, bien sûr, les terres d'altitude qui montent à plus de 3000, voire 4000 mètres, où l'Indien a été petit à petit repoussé. Là, il n'y a que quelques champs de maïs et des sortes de patchwork, comme ça, constant, presque au sommet des derniers volcans ou des derniers contreforts de ces montagnes que représente la Sierra Madre. Mais il n'en reste pas moins que ce cœur du Guatemala, qui a été Antigua, garde cette impression de confort absolu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport à cela, mais on le voit très bien dans la vie. Le soir, c'est un peu mort. Il y a la cheminée, il y a deux boîtes où les jeunes se retrouvent, où on s'amuse, on passe d'un endroit à l'autre, mais c'est une ville morte parce qu'elle a ce côté résidentiel. Et puis la journée, elle s'anime petit à petit, les Indiens viennent pour vendre leurs produits, vous avez des tisseuses en plein air, vous avez des marchés, dans les ruines même des couvents, vous avez des ensembles de toiles comme ça qui s'harmonisent avec la ruine et qui vous font comprendre que finalement la vie est restée avant tout présente, parce que c'est impossible de quitter un endroit aussi paradisiaque, aussi idyllique. J'ai parlé de romantisme, mais c'est à fleur de nez, à fleur d'oreille, à fleur de peau qu'Antigua vous fait envie d'y rester. Des lieux comme cela à Antigua, Guatemala. Quand on sort de la cathédrale, par exemple, on a envie de chercher là dans, je crois que c'est la 4 ou 5e rue, parce qu'elles sont toutes parallèles. Hein. Ce sont des rues coupées comme cela, comme elles le sont dans toute l'Amérique hispanique. Des rues bien tirées au cordeau et qui suivent un peu la forme semi-arrondie comme ça, qui fait que la ville est un peu dans une cuvette. Il y a d'ailleurs un promontoire à l'extérieur avec une croix où l'on domine cet incroyable damier. Et puis au fond, vous avez ces ponctuations volcaniques comme ça en a vraiment envie de prendre le pinceau et de dessiner cette forme parfaite. Et puis derrière, une autre forme parfaite, puis un peu plus loin, encore une autre forme parfaite. La Catenango, qui est le troisième volcan, qui est un peu plus loin. Et finalement, quand on cherche dans cette petite ruelle, là, on arrive à la hauteur de la cinquième, on cherche la maison de Bernal Díaz del Castillo. Voilà quelqu'un qui, pour moi, est tout à fait le représentant de quelqu'un qui a aimé Antigua. Il a vécu dans les années 1500, mais c'était le secrétaire de Cortés. C'est un jeune homme de 20 ans qui est parti faire la conquête du Mexique et qui, là, à Antigua, dans ce climat idyllique, à l'âge de 90 ans, a décidé d'écrire au jour le jour, comme s'il avait un agenda absolument bien tenu, tout ce qu'il avait vécu dans son jeune âge, et qui nous raconte ce qu'on appelle l'histoire véritable des choses de la Nouvelle-Espagne. Et vraiment, on part de Veracruz, on arrive jusqu'à Mexico, et on s'imagine la plume de cet homme vieilli, comme cela, dans ce milieu idyllique que j'évoquais, parce qu'il y a les bougainvilliers, il y a les hibiscus, il y a la couleur qui est encore dans ses patios et qui renchérit un peu cette chaleur de la peinture qu'on renouvelle de temps à autre sur toutes ces maisons. Et puis il y a ces toits de tuiles romaines. Il y a aussi cette façon de créer des fenêtres incroyables qui sont à la fois en moucharabiais, à la façon un peu musulmane. Vous avez ces grilles de fer forgé qui débordent sur des trottoirs qui sont assez larges. Et puis de nouveau ces galets qui font un bruit assez curieux même sous les pneus d'aujourd'hui. Et je dirais qu'un peu plus loin, par exemple devant la Merced, il y a le bruissement du vent dans les palmes, des gros palmiers, vous savez, des gros palmiers royaux comme cela. Une façade jaune, un étrange jaune safran comme ça, avec des milliers de grappes de raisins en forme, c'est du stuc blanc, hein, des feuilles d'acanthe, enfin toutes sortes de décorations. Et puis souvent au moment des fêtes, vers Noël par exemple, ou lors des fêtes des grands saints, vous avez des guirlandes qui font 20 ou 30 ou 40 ou 50 mètres de longueur et qui descendent comme ça devant l'église. Ce sont des guirlandes qui sont faites avec des grandes aiguilles de pin qui font jusqu'à 12 ou 15 centimètres de longueur et qu'on coince comme ça dans une double ficelle pour créer une sorte de fantasme arrondi comme ça, des guirlandes vertes qui bougent gentiment dans le vent, quelques papiers de couleur. Et puis juste devant, vous avez la statue de Diego de Landa qui était le premier défenseur des Indiens, qui a vécu ici à Antigua, qui a vécu aussi dans les Chiapas, qui faisait partie du Guatemala. Et puis vous avez aussi des personnages qui sont assez curieux. Par exemple, quand vous pénétrez dans l'église de Saint-François, voilà une église qui a encore subi le tremblement de terre de 1917, celui de 1918, qui a encore été une fois écrasé en 1976.
J'imagine qu'elles sont très fréquentées,
celle-là, les églises. Certaines sont presque vides parce qu'elles sont complètement en ruine, mais celle-là est animée. Et il y a une sorte de Saint Pedro, comme on l'appelle sur place, qui fait des miracles avec des ex-votos un peu partout. Alors les gens se pressent devant son tombeau. Et puis il y a cette nef qui est presque vide. Juste à l'entrée, vous avez quelques retables dorés. Il suffit de quelques touches pour se dire, mon Dieu, le 18e, c'était ça. Avec une telle richesse, avec autant d'or, avec autant de peinture, avec autant de trésors. Et puis vous rentrez dans une nef qui aujourd'hui est complètement vide. C'est-à-dire qu'on a refait la voûte tout en blanc parce qu'on a rien d'autre, on n'a plus rien d'autre. Et puis derrière, vous avez le couvent complètement en ruine, mais vraiment avec des herbes folles, avec ces fontaines et ces restes qui sont là dans une végétation incroyable. Et un peu plus loin, je ne sais pas, vous auriez Santa Clara par exemple. Santa Clara, on sent que les nonnes étaient là. On imagine très bien ces couvents à deux étages avec des cellules et puis toute la vie de l'époque que vous voyez, je le rappelle, un peu comme les ruines de Pompéi. Et quand vous sortez, quand vous quittez Antigua, et bien vous vous rendez compte que tout ce qui est autour vit très bien. Il y a les cultures, il y a ce café, ces plantations bien cachées, ces sortes de haies de protection où on a des herbes urticantes pour empêcher de voler ces biens précieux que sont tous ces biens agricoles. Vous avez aussi l'odeur, ou alors même cette façon d'étendre le café pour le sécher en plein soleil. Et puis vous arrivez dans des villages qui sont serrés, qui sont compacts, qui sont cachés. Toutes les huttes sont cachées derrière ces haies. C'est très fourni, il y a du bambou éventuellement. Et puis vous découvrez une tisseuse devant sa maison. Vous découvrez peut-être la plus grande tisseuse du Guatemala. Vous rentrez chez Caroline et là vous êtes ébloui. C'est plus du soleil, c'est de la couleur pure. Il y a des milliers et des milliers de huipils, ces chemises brodées, enfin brocardées ou tissées par les femmes. Et vous vous rendez compte que le Guatemala, c'est aussi cette vie-là, c'est aussi cette fonction qui fait qu'on a quelque chose de joyeux, on a quelque chose de pur dans l'expression, à la fois artistique. Il y a encore du baroque dans le tissage aujourd'hui. Quand on voit un tissu de San Antonio Aguascalientes qui se trouve là juste après Ciudad Vieja, dans la poussière de cette piste, eh bien vous vous dites que quand vous voyez un petit dauphin, une petite crevette, un petit motif avec un poisson et toutes ces fleurs qui sont reprises les unes dans les autres dans des brocarts incroyables que vous pouvez retourner, ils sont aussi beaux d'un côté que de l'autre, c'est du double face et serré, vous vous dites effectivement que ce qu'a été le 18e siècle existe encore. Ben oui, on vient de croiser une indienne, elle est encore baroque dans son expression, dans sa façon de porter son identité.